Vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios, en direct du Salon des éditions libertaires. Donc on est avec Fabien Aulier de la revue Quel Sport, qui va animer un débat d'ailleurs demain de 11h30 à 12h30, qui s'appelle « Le sport n'a rien de libertaire ». Donc voilà, bonjour.
Bonjour.
Alors bienvenue dans le studio mobile de Radio Canu.
Merci de votre invitation.
Alors donc tu vas animer un débat qui s'appelle « Le sport n'a rien de libertaire », ça semble un peu mystérieux. Alors tout d'abord, on va te demander peut-être de définir ce qu'est le sport pour toi.
Oui, alors pourquoi j'ai voulu insister d'abord sur le fait que le sport n'avait rien de libertaire? Parce que justement c'est une idée qui ne coule pas de source en ce moment. Pendant très longtemps, les libertaires se sont préservés, on va dire, du sport. Aujourd'hui, le sport est une tentation parmi certains libertaires. Preuve en est le livre de Wally Rosel qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle L'éloge de la passe, qui est une forme d'apologie du sport, à la fois spectacle, de compétition. Finalement, l'idée de se réconcilier avec l'ère du temps et avec l'ère d'un sport compétitif dans lequel on éprouverait une certaine forme d'extase, de bonheur, de joie. Bref, l'opium du peuple, oui, mais c'est tellement bon, donc profitons-en. Voilà un petit peu grosso modo comment certains libertaires aujourd'hui, ou qui prétendent l'être, sont attirés par le sport. Or, il se trouve que je pense qu'effectivement, tout oppose la pratique sportive, l'institution sportive, le discours sportif, la mythologie du sport et l'esprit libertaire ou la philosophie libertaire. Et ceci parce que, justement, le sport est est un système institutionnalisé de pratiques compétitives à dominante physique, réglementées, évidemment, réglementé universellement, hein, mondialement, c'est-à-dire on joue de la même manière au Brésil ou à Lyon, de telle ou telle activité, et qui a pour objectif de faire émerger le champion, le record, la meilleure performance. C'est donc que le sport est bien une activité corporelle, mais qui n'a rien à voir avec une activité corporelle libre, avec un jeu, ou avec des jeux traditionnels, même les jeux antiques grecs. C'est une activité qui est née en Angleterre au 19e siècle, qui a été instituée dans l'Angleterre de la Révolution industrielle, qui a une empreinte bourgeoise capitaliste très claire, et qui donc est une forme de propédeutique au travail, de propédeutique à la discipline que la société industrielle imposait, demandait aux individus à ce moment-là. Voilà.
Ah, juste pour bien définir, quand tu distingues activité corporelle et sport.
Je distingue effectivement le sport qui est évidemment une activité corporelle, mais qui est une activité corporelle particulière, qui est une activité corporelle réglée, disciplinée, qui a une histoire précise, qui a une histoire institutionnelle précise. Donc, toute activité corporelle n'est pas sportive, mais le sport est évidemment une activité corporelle, même si on peut parler de sport quand on fait des échecs. Il se trouve que la dominante physique est importante pour définir le sport comme idéal type, on va dire. Voilà, donc la pratique du sport, pour donner un exemple clair, je sais pas, quelqu'un qui va courir dans les bois, il va courir dans les bois comme ça de temps en temps parce que ça lui fait plaisir de, je sais pas, batifoler avec les oiseaux et les écureuils. Bon, il fait une pratique corporelle. Dès le moment où, par contre, il commence à rationaliser sa pratique en délimitant un espace particulier, en courant avec toujours le même parcours, en se demandant combien il fait de kilomètres ou de mètres, et qu'il va commencer à se chronométrer, il a transformé la forêt en un stade, il a transformé son corps en un instrument de performance, et donc il a incarné tout ce qu'il y est au fondement de la pratique sportive, c'est-à-dire on va dire le rendement physique, la science du rendement physique. Pour qu'il y ait science du rendement physique, il faut qu'il y ait abstraction du corps vivant en une espèce de mesure et abstraction de la nature en un stade. Voilà. Et dès le moment où il y a entraînement, répétition de cet entraînement et compétition même contre soi-même, eh bien effectivement on est dans le domaine sportif, d'autant plus si on est dans un club. Voilà. Et à côté de ça, bien entendu, le sport est non seulement une pratique, mais également un spectacle. Et c'est pourquoi aujourd'hui tout se tient, c'est une totalité organique. Le sport, on peut même plus séparer la pratique du spectacle. On parle de sport, spectacle, de compétition. C'est un tout, une totalité complètement unifiée par des institutions ultra dominantes comme le CIO, la FIFA, qui sont des institutions matériellement, économiquement, philosophiquement extrêmement dominantes dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Qui font et défont la géopolitique du monde.
Ouais, alors dans l'idée de sport, il y a l'idée de dépassement de soi, de soi, on fait une compétition même avec soi-même, hein, sans faire des compétitions avec les autres. L'idéologie du corps comme ça, mis en tant qu'outil de performance, a été utilisée par les nazis, par exemple, ce qui avait donné une image très négative de l'idée, voilà, du sport, mais même pour soi, même ouais, voilà. Et c'était, pourquoi aujourd'hui, avec tout ce passé-là, qui est très négatif, avec le sport-spectacle qu'on connaît aujourd'hui, les libertaires peuvent tomber dans l'attrait de regarder un match de foot ou de participer à ça.
Parce que le sport.
Excusez-moi, mais avant, on parle de libertaire et tout ça, mais je trouve pour les gens qui savent pas ce que c'est les libertaires, on pourrait rappeler, même si on est en direct du salon des éditions libertaires, quand même on est a priori anticapitaliste, oui, voilà, contre les dominations dans la société.
Contre la domination. C'est l'idée de lutter contre la domination, de s'émanciper de toute forme d'autorité, d'autoritarisme. C'est ce qui est au fondement de l'esprit libertaire. Or, il se trouve évidemment que le sport est une autorité extrêmement conséquente, puisque dès le moment où on pratique une activité sportive, on est obligé de respecter des règles qui ont été instituées par d'autres que nous, d'autres que soi. Raison pour laquelle une pratique corporelle, une pratique sportive peut être déconstruite pour mettre en place une activité corporelle plus adaptée à ceux qui la font, bien sûr. Et dans ce sens-là, dans cette déconstruction, on peut trouver quelque chose de libertaire dans cette déconstruction, dans la destruction de règles qui nous sont imposées pour pouvoir en mettre en œuvre d'autres qui sont plus adaptés aux pratiquants, qui effectivement ne fragmentent pas le corps social comme l'est le sport aujourd'hui. Le sport aujourd'hui, c'est une fragmentation absolue du corps social, puisqu'il y a différents niveaux, différents groupes. Il y a les adolescents qui jouent entre eux, les femmes qui jouent entre elles, les hommes qui jouent entre eux, c'est une fragmentation absolue, les valides et les invalides, les vieux et les jeunes, etc. etc. Donc, il est évident que si on voulait mettre en œuvre une pratique corporelle qui justement puisse intégrer, faire vivre ensemble toutes ces différences, tout ce pluralisme social, on serait évidemment obligé dans une pratique autogestionnaire de remettre en question toute l'architecture de la pratique sportive. Raison pour laquelle je parle de déconstruction. Pour revenir sur ce que tu dis, pourquoi les libertaires, j'allais dire, et tant d'autres, anarchistes, communistes, etc., etc., communistes libertaires, pourquoi ils tombent un petit peu dans ce bain sportif? C'est parce que la fonction, l'effet du sport, c'est qu'il est un opium du peuple. Et l'opium du peuple n'épargne pas les libertaires, malheureusement. Voilà. Ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a une telle force de frappe du sport spectacle, il y a une telle force de frappe des institutions sportives que celui qui naît aujourd'hui dans ce monde naît quasiment avec des baskets aux pieds. Et à partir de ce moment-là, rejeter l'idéologie sportive, c'est quasiment rejeter son propre corps. Raison pour laquelle c'est très difficile de lutter contre cette forme d'extase ou de parenthèse enchantée. Je pense que si beaucoup de gens, libertaires compris, sont fascinés par le sport, par l'exploit sportif, c'est aussi parce qu'ils y trouvent une espèce d'illusion de bonheur. Voilà. C'est, pendant quelques instants, on rêve, on vibre, on est passionné parce qu'on s'identifie à une équipe qui gagne ou parce qu'on s'identifie même à une équipe qui va systématiquement perdre parce que par inversion des valeurs, on préfère supporter l'équipe qui va perdre. Enfin, qu'importe, mais quoi qu'il en soit, on va trouver cette parenthèse enchantée par rapport à un monde qui est manifestement sordide, manifestement misérable, manifestement difficile à vivre. Or, le sport, c'est l'univers de l'enchantement permanent, l'univers du paradis. On gagne, on perd, on reprend, on se réconcilie, on fraternise. Tout ça, ce sont des images qui sont véhiculées aujourd'hui et qui ne correspondent évidemment pas à la réalité, mais qui fabriquent un imaginaire social perméable, effectivement, à ce struggle for life capitaliste qui est la guerre de tous contre tous par le biais du sport.
Alors moi je vais peut-être un peu taper à côté, mais j'ai bossé avec des enfants pendant un temps et je trouvais justement que, enfin pour les enfants, je trouve que c'est une des choses les pires en fait, les clubs de sport, etc. Parce que on va lui vendre ça comme le fait d'aller s'amuser, sauf qu'au final, enfin je sais pas si vous êtes déjà rentré dans un club de sport, c'est juste horrible.
Bien sûr.
C'est-à-dire que tu n'es libre de rien, tu dois respecter tout ce que le maître ou le prof ou je ne sais quoi te dit. Et on est loin de l'aspect plaisir qui, au final, devrait être l'essence, enfin, de la pratique physique, etc. Ça devrait juste être du plaisir. Et au final, le gamin, très tôt, moi, je le mets à l'enfant parce que c'est un individu qui n'est pas libre, ne serait-ce que par l'autorité parentale. Et ce qui fait que lui, dès le plus jeune âge, il va être dans un engrenage d'autorité qu'il va apprendre à respecter dès son plus jeune âge. Et c'est, enfin, je trouve que c'est horrible, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Ouais.
Et moi, j'ai souvent cette petite provocation qui consiste à dire que le sport, c'est d'empêcher que l'autre en fasse. Voilà, parce qu'effectivement, l'un des principes fondamentaux du sport, c'est d'éliminer l'autre. C'est-à-dire que qui veut faire du sport est obligé d'éliminer tous ceux qui veulent en faire également. Et donc, effectivement, on apprend aux gamins de plus en plus tôt. Hein, dès 4 ans aujourd'hui, les clubs de sport sont ouverts aux... Il y a les baby judo, les baby karaté, les baby foot, etc. etc. Et les compétitions sont mises en œuvre de plus en plus tôt également, dès 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et effectivement, dans ce cadre-là, dans ce cadre compétitif, il y a élimination, il y a sélection, et il y a effectivement lutte acharnée, féroce, même des 7 ans ou 6 ans, pour ne pas être sur le banc de touche, pour pouvoir être le préféré du professeur, le préféré du maître, etc. Donc, on est bel et bien dans le cadre du contraire, effectivement, d'une pratique orientée par et le plaisir ou la conscientisation, on va dire. C'est-à-dire une pratique physique qui permettrait de prendre conscience aussi de soi, des autres, etc. On est bel et bien, au contraire, dans cette forme de productivisme corporel, de productivisme musculaire, qui en laisse beaucoup sur le carreau.
On a l'impression que c'est une vision moderne du sport. Est-ce qu'à un moment, tu connais l'histoire, et des moments où il y a eu du sport qui était moins axé sur cet aspect compétitif, où, par exemple, les règles étaient choisies collectivement, on allait rencontrer son voisin, mais sans compétition, sans animosité. Est-ce que ça a eu existé, ça?
Il y a jamais eu véritablement ce type de sport. C'est-à-dire qu'avant le sport moderne, ce qui était répandu, c'était les jeux traditionnels. Les jeux traditionnels où, effectivement, la soule, les joutes givordines, chaque petit village pouvait avoir des jeux enracinés dans une logique spécifique, dans une culture spécifique, une culture religieuse ou païenne. Donc, il pouvait y avoir des écarts, évidemment, entre la façon dont on pouvait jouer au XVIe siècle à un jeu de balle, dans le nord de la France ou dans le sud. Ce qu'a fait le sport moderne, encore une fois, ce qu'a fait l'institution du sport moderne, c'est qu'elle a totalement unifié les pratiques corporelles avec cette idée que toute technique du corps devait être une technique productive et rentable. Et pour ce faire, est comparable. Et pour ce faire, elle a exporté le modèle, par le biais évidemment de la colonisation, par le biais de l'expansion capitaliste, elle a exporté le modèle du corps sportif de telle sorte qu'encore une fois, on puisse jouer au football de la même manière au Brésil, à Lyon et dans je ne sais quel fond perdu de la forêt amazonienne. Voilà. Il faut absolument, ou en tout cas c'est l'objectif impérialiste de l'institution sportive, il faut que tout le monde puisse jouer exactement la même chose avec les mêmes règles pour qu'effectivement il puisse y avoir cette compétition transversale de tous contre tous et pour pouvoir faire émerger in fine le meilleur, c'est-à-dire celui qui gagne. Voilà.
Alors on va simplement faire une petite pause musicale et on reprend dans quelques minutes et à ce moment-là ça sera bien que tu parles aussi de ta revue.
Oui.
Toujours sur Radio Canyon, on vient d'écouter Mizgin Tahir, une chanteuse kurde, pardon. Et on est toujours avec Fabien Houllier pour une discussion sur le sport. Donc toi, tu participes à une revue qui s'appelle Quel Sport ? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette revue ?
Oui, donc je suis le directeur de publication de cette revue qui, a, dans le premier numéro, est sorti en 2007. En fait, Quel Sport est la suite d'une revue qui s'appelait Quel Corps ? Qui a sévi de 1975 à 1997, qui était dirigé par Jean-Marie Brome, qui est, on va dire, le fondateur, le théoricien de la critique radicale du sport en France. Voilà. Quel Sport est donc une reprise un peu ironique de la revue qui avait cessé en 97, et elle s'est mise en place en 2007 à la suite du mouvement de boycott des Jeux Olympiques de Pékin 2008, qu'on avait mené cette campagne depuis 2005-2006, et on a décidé de coupler cette campagne de boycott à la publication d'une revue théorique et militante qui permette à la fois de comprendre et de dénoncer le sport et en même temps de mener des luttes concrètes de contestation des grands événements planétaires du sport comme la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques, etc. Avant ça, moi, dès 96, j'ai mené la campagne de boycott de la Coupe du Monde de football en France. Quand même, qui a quand même réconcilié le peuple français et les intellectuels en premier lieu d'ailleurs, et les libertaires aussi d'ailleurs. Ça, je pense que ça a beaucoup joué, qui a donc réconcilié cette victoire de l'équipe de France, le peuple français, une grande partie du peuple français qui était réfractaire au sport, avec justement ce supporterisme, ces chaudes ambiances de fin de match et de victoire partagée. Voilà. Donc c'est une revue qui a finalement une courte histoire et en même temps une histoire qui se plonge dans des traditions importantes du mouvement critique et notamment le marxisme libertaire, le marxisme sans rivage, voilà.
Alors moi j'avais une question, enfin les opposés, enfin quand tu dis que vous êtes opposé, que vous faites, enfin le boycott, vous faites appeler à boycotter les Jeux Olympiques, oui. La Coupe du Monde, est-ce que ça s'arrête à une critique du sport spectacle et de tous les excès qui s'entraînent, ou est-ce que on dépasse juste le cadre du sport en voyant aussi, je sais pas, on prend l'exemple de la Chine ou de le prochainement de la Russie, les opposants politiques, la Tchétchénie, les droits homosexuels.
Enfin, c'est exactement ça.
Okay,
c'est exactement ça. C'est de montrer que le sport est une affaire d'État. Et justement, le sport n'est pas neutre, c'est pas simplement la question sportive, si vous préférez, c'est le fait que s'il y a du sport dans un régime dictatorial, c'est pas pour rien, s'il y a du sport dans un régime totalitaire, c'est pas pour rien, si le Comité international olympique attribue à la Russie nationale soviétique de Poutine les Jeux olympiques d'hiver, ça n'est pas pour rien, et si elle a choisi Pékin, c'était pas pour rien non plus, et idem pour la FIFA qui choisit le Qatar, qui choisit également la Russie et tutti quanti. Donc évidemment, ce genre de contestation qui est à chaque fois différente, qui est à chaque fois liée avec la situation particulière du pays, essaye justement de faire le lien entre la pratique sportive, le sport spectacle de compétition, et la façon dont un régime profite, instrumentalise cet événement pour se faire acclamer par la population, sa propre population et la population internationale, puisqu'évidemment, quand un événement planétaire est organisé par un régime dictatorial, on trouve toujours fabuleux la magistrale organisation, les fabuleux records, etc., etc. Et on oublie effectivement rapidement de critiquer ce qui se passe au sein de ce régime. Donc, bien sûr qu'il y a un effet de paravent, d'occultation lié au sport. Et donc, quand on dénonce et quand on conteste et quand on lance des mots d'ordre de boycott, c'est en faisant toujours donc le lien entre la situation particulière du pays et les fonctions politiques du sport. Et donc, ça veut dire qu'on se contente pas, j'allais dire, de se lamenter sur ce qu'il se passe, on tente d'organiser dans le concret des manifestations, on tente de fédérer intellectuels, organisations de défense des droits de l'homme, mouvements associatifs, etc. dans des campagnes qui sont généralement longues, dures, dans lesquelles généralement on se confronte à un désert absolu, puisque la grande majorité des réponses qu'on reçoit, c'est que les droits des sportifs seraient finalement plus importants que les droits de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que enfin, l'idée générale de ceux qui sont le plus à gauche, c'est de dire certes, vous avez raison, le sport spectacle de compétition participe de la reconnaissance d'un régime dictatorial, mais on ne peut pas priver les athlètes qui se sont qui rêvent de cette compétition depuis si longtemps, on ne peut pas les priver d'un tel rêve. Et donc ça serait faire déshonneur et ça serait faire trop mal aux sportifs que de boycotter un événement comme ça. Et bien moi je dis que non, les sportifs on s'en fout, et ce qui compte c'est les droits de l'homme, les droits effectivement des prisonniers politiques, les droits des dissidents, les droits des opposants, le droit de manifester effectivement dans des pays où les gens sont réprimés dans le sang, et ce droit-là est bien plus important que le droit de battre des records, généralement sous l'effet de dopage intensif, et en plus en vendant ces records aux plus offrants.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais...
Et pourtant, je parle vite.
C'est vrai, on peut le dire.
Tu dis beaucoup de choses en peu de temps. C'est simplement si tu pouvais aussi dire en deux mots, parce qu'on va devoir lâcher l'antenne et revenir au Radio Canu classique à partir de 4h-1, donc dans 3 minutes exactement. Sur là, tu as beaucoup parlé donc de la critique du sport aussi à travers le prisme de la critique du capitalisme et des systèmes dominants. Oui. Est-ce que tu peux dire deux mots sur aussi les normes corporelles, les normes physiques?
Oui, évidemment, l'institution sportive étant dominante, elle a tous les moyens pour diffuser l'idéologie du corps parfait, l'idéologie du beau corps et du corps qui est généralement de plus en plus un corps mutant, un corps musculeux, un corps de plus en plus imposant. Et comme, encore une fois, elle a les moyens financiers pour diffuser cette publicité, eh bien, elle décide effectivement des normes physiques compatibles, conformes. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que les nouvelles normes que propose l'institution sportive sont les normes du mutant. Voilà. C'est-à-dire que des corps énormes, justement. Voilà, disproportionnés.
Merci pour ton intervention. On rappelle que le débat a lieu demain. Vous avez peut-être redonné l'horaire.
11h30, 12h30. Donc toujours au salon des éditions 28 rue d'Enfer Rochereau, métro Hénon.
Alors, on va arrêter cette session en direct de Radio Canu du salon. Par contre, on va annoncer peut-être demain à quelle heure on commence en direct, puisque nous avons le chef de la radio au salon.
On est libertaire, mais en fait, on a des chefs. On vous confesse en direct.
Donc, camarade chef. Il faut mettre camarade devant, ça fait tout de suite mieux. On est à l'antenne demain à partir de 10h jusqu'à
10h jusqu'à 14h.
14h, voilà, pour à nouveau 4 heures d'antenne sur ce salon avec toujours plein d'invités,
etc., etc.
Merci d'avoir été à l'écoute et on passe l'antenne à Radio Canu et ce sera
L'Île Rouge.
Voilà.